1000 visiteurs par an, Persépolis figure en tête des sites touristiques les plus fréquentés en Iran. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté.
Radio G.
Attention, événement.
Angers accueille Cultissime, le festival international des œuvres cultes. 3 jours d'immersion au cœur des romans, bandes dessinées, comics, mangas et adaptations qui ont marqué nos vies. Expo Harry Potter, rencontre avec Jean Van Damme, dédicace de James Ellroy, Sylvain Tesson ou Olivia Ruiz, leçon de cinéma avec Michel Hazanavicius. Vous trouverez tout ça et bien plus encore au festival Cultissime. Info sur le site cultissime.org. Un festival à consommer sans modération du 27 au 29 septembre à Angers. Un partenariat avec Radio G 101.5 FM.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Bonsoir et bienvenue à bord du train des agitations locales. Le local à Angers est souvent culturel. D'ailleurs, ce week-end, c'était les Journées européennes du patrimoine. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous vu? Dites-nous tout sur les réseaux sociaux. Quelle a été votre virée patrimoniale du week-end? Nous, notre virée culturelle de cette semaine sera théâtrale, en danse. On sera avec le CDN et le CNDC demain pour leur lancement de saison. Mercredi, on va partir, on sera plutôt sportif que culturel cette fois-là, puisqu'on sera avec Émilie et Charline qui participent au Sahara Trophy. Elles ont créé Les Monarques, un binôme, pour faire 3 trails dans le désert tunisien courant mars. Jeudi, pour le coup là, ce sera très culturel, littéraire, on va parler du Festilivre. Et ce soir, cinéma. Oui, on prend un petit peu d'avance sur mercredi. Normalement, c'est le mercredi, les sorties ciné. Mais ce soir, dans Topette, ce sera cinéma, puisque nous serons toujours en local avec Youn Bazin, qui a réalisé un documentaire sur sa sœur Mona, qui travaille dans une masse. Une masse, c'est une maison d'accueil spécialisée. Ça se passe dans les Alpes. Un long métrage plein de défis, dont l'avant-première sera samedi 28 septembre prochain à 13h au 400 coups. Et toujours au 400 coups, toujours le samedi 28 septembre. Vous pourrez passer toute la journée là-bas. Cécile nous parlera des 3 courts-métrages, cette fois-là ils sont courts, les courts-métrages de Corée 49, et elle nous dira tout de leur synopsis. Sinon, ce soir, le retour, c'est pas une nouveauté, mais le retour en fanfare de Paul. Bonsoir Paul.
Bonsoir Pierre Benoît.
Pour la Minute Sport autour de 18h30, de quoi parlons-nous? Beaucoup d'actualités sportives.
Ouais, c'est la reprise des équipes angevines un petit peu partout dans le 49. Et puis on a aussi une petite news assez sucrée, Ronaldinho qui jouera à Angers.
Alors une autre news sucrée, c'est que toi t'étais cet été au JO.
C'est ça, exactement, je faisais l'audiodescription de certaines épreuves olympiques et paralympiques.
Mais où peut-on entendre ça? Est-ce qu'on peut le découvrir, ton travail?
Eh ben, c'est pas possible, c'était uniquement pour les spectateurs dans le stade, malheureusement.
Bon, en tout cas, ça ferait une belle ligne sur ton CV, on espère que ça pourra t'emmener plus loin. Topette, donc ça, la Minute Sport, autour de 18h30. Topette, c'est sur les réseaux sociaux, 18h10, 19h sur le 101.5 FM, tous les soirs du lundi au jeudi. Et donc sur les réseaux sociaux, Topette, Radio G, Instagram notamment. C'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Et pour se mettre en jambe en attendant le trail avec Émilie et Charline de mercredi prochain, on va se faire une petite balade avec Camille du côté de Terra Botanica.
Envie de partir en vadrouille? Viens, je t'emmène avec moi. Nous partons aujourd'hui à la découverte de Terra Botanica. Amoureux des plantes, adeptes du grand air ou férus de parcs d'attractions, il y en a pour tous les goûts. Sur 22 hectares, nous allons ensemble parcourir de nombreux univers et découvrir des mondes extraordinaires. En route, nous entrons dans un parc végétal immense. On se croirait dans un petit village imaginaire. Les bâtiments se fondent parfaitement avec la nature environnante. Commençons, si tu le veux bien, par une des nouveautés de cette année, les mystères de la forêt. On se lance dans des filets, on saute sur des trampolines, on fait la course, et tout ça, accroché dans les arbres. Tout est extrêmement sécurisé, tu ne crains rien. Alors jette-toi dans le vide et profite. On fait encore quelques instants les singes, puis on descend. On vogue d'univers en univers à la découverte de la nature. On nous conte les grandes explorations. On fait la rencontre d'Aristide et Louis-Marie Aubert du Petit Thouars. On découvre une serre aux papillons et on en apprend plus sur les trouvailles culinaires du XVIIe siècle. On revient ensuite dans nos terres angevines. On grimpe à bord d'une gabarre et on part à la rencontre des marins d'eau douce. Cette balade bucolique permet aussi d'avoir une jolie vue d'ensemble sur le parc. Maintenant, direction les origines de la vie. On entre au cœur de la préhistoire et on découvre petit à petit l'histoire du végétal. Un tour au cinéma 4D et on se transforme en goutte d'eau. Un véritable voyage au centre de la Terre, humide. On termine cette délicieuse balade en explorant le végétal insolite. Découverte d'une serre abandonnée, de plantes supportant les grandes chaleurs ou les froids glaçants. J'admire ces plantes, finalement bien plus résistantes que nous. Au total, ce ne sera pas moins de 50 expériences réalisées dans la journée. Et bien trop de plantes découvertes pour les compter. Tu veux en découvrir davantage sur les plantes ? Pars interroger les éco-jardiniers de la Maison de l'Environnement au lac de Maine. En plus de pouvoir répondre à tes questions, tu pourras aussi découvrir ce parc de 220 hectares ainsi que son lac. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous !
Est-ce que vous connaissez le point commun entre le jardinage et le cinéma ? Eh ben, quand c'est trop long, on coupe.
L'invité de Topette sur Radio G.
Elle est bonne celle-là, Paul. Hein. Tu l'as ?
Ah ouais. Franchement, elle est belle.
Coupée, parce que oui. Bon, on va pas expliquer les blagues, ça suffit comme ça. On va pas blaguer avec notre invité de ce soir. On va parler d'un sujet plutôt sérieux. Bonsoir, Youn.
Bonsoir, Pierre-Benoît.
Youn Bazin, jeune réalisateur angevin, même si actuellement tu es plutôt expatrié du côté de Paris, mais mes infos me disent en sous-main que tu vas revenir peut-être par là. On va parler ensemble de Où tu voudras, quand tu voudras, le documentaire que tu as réalisé en octobre l'année dernière, et c'est en avant-première ce samedi 28 septembre aux 400 coups, à partir de 13h. Alors qu'est-ce qui s'y passe ? Bah, Youn, tu as suivi ta sœur, Mona, pendant un mois, qui travaille en masse, en maison d'accueil spécialisée. Ça se passe du côté des Alpes, c'est dans les Écrins précisément. Une maison d'accueil spécialisée accueille des adultes qui souffrent d'un handicap assez lourd et qui donc doivent être accompagnés toute la journée, que ce soit pour toute la journée et toute la nuit, que ce soit pour les soins du quotidien, les activités sociales, enfin tout ce qui concerne la vie courante. T'as pas travaillé tout seul puisque t'étais avec Ellie au son, que on embrasse, s'il nous écoute. Et puis Aurélie, alors je suis pas sûr de la prononciation, Simbe.
Simbe, je crois. Enfin, moi aussi, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Aurélie Simbe.
Simbe, C-I-M-B-E. Et bah, du coup, Élie Boutin aussi, c'est le même Élie, hein, j'imagine.
Oui.
Qui a composé la musique originale. Youn, tu vas nous parler un petit peu de ce documentaire. Qu'est-ce qu'il raconte, là, je viens de décrire comme ça, dans les grandes lignes, c'est les infos que tu m'avais données, mais de quoi il parle ? Qu'est-ce qu'il nous montre à voir ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir si on s'imagine, là, fais-nous un petit peu la bande-annonce de ce documentaire.
Alors, ce documentaire s'immisce durant un mois dans la vie de la masse des Écrins. Donc, comme tu l'as dit, c'est une maison d'accueil spécialisée où vivent 24 adultes, tous atteints de handicap assez lourd. Et moi, ce que j'ai voulu mettre en lumière, c'est précisément les liens entre les accompagnants et les résidents. Car moi, j'ai eu accès, en fait, à cette masse via ma sœur Mona qui y travaille. Et c'est un métier du médico-social qui est pour moi énormément de valeur, pour lequel j'ai énormément de respect et que je voulais montrer aux yeux de tous, parce que tout le monde n'a pas connaissance en fait de ces métiers et de ces liens entre des résidents et des accompagnants.
Un hommage, d'une certaine façon, à ces métiers-là. De quel point de vue tu nous racontes tout ça ? Comment c'est filmé ? On est caméra au point ? C'est un documentaire comme on l'imagine être un documentaire ? Ou alors, comment t'as travaillé ça ? Comment tu nous montres ça ?
Je dirais que c'est un documentaire, moi j'appelle ça un documentaire photographique, dans le sens où il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de voix off. Moi, en tant que réalisateur, j'interviens pas. C'est-à-dire que j'ai posé ma caméra. Et mon désir, c'est de montrer ce qui se passe, puisque je considère que ce qui se passe dans cette masse, ce qui se passe entre toutes ces personnes, ça suffit à soi pour transmettre des émotions, des valeurs. Et, Et moi, voilà, j'ai été témoin de ce que j'ai vu et je veux que le spectateur le soit aussi. Donc voilà, c'est un documentaire que j'appelle photographique.
C'est-à-dire qu'en fait, on est comme une petite souris immergée au cœur de la maison d'accueil spécialisée avec avec ta sœur. On suit ta sœur principalement ou des fois on change un petit peu de personnage?
Ouais, c'est ça. En fait, ma sœur Mona, c'est un peu le fil rouge de ce film. C'est-à-dire qu'on vit l'expérience à la masse à travers elle. Voilà, c'est aussi une manière pour le spectateur de s'identifier à quelqu'un. Et il y a certaines séquences où on prend un peu d'air, on va voir d'autres personnes, mais elle est là, elle représente en tout cas le personnel, enfin les accompagnants en général, mais c'est à travers elle qu'on vit le film. Et je pense que chacun aussi a sa manière de travailler dans ce milieu. Et voilà,
Parle-nous de la bande-annonce. Qu'est-ce que tu nous donnes qu'est-ce que tu nous offres à entreapercevoir justement du documentaire? Qu'est-ce qui s'y passe dans cette bande-annonce?
Dans cette bande-annonce, ce que j'ai essayé de faire, c'est de transmettre toutes les émotions qu'on ressent dans le film, c'est-à-dire et qu'on ressent en fait dans cette maison, c'est-à-dire qu'il y a de la joie, de la tristesse, des difficultés, enfin il peut y avoir de la violence entre résidents, entre personnel et résidents. Donc voilà, il y a en fait énormément d'émotions. On passe par beaucoup d'états dans ce film et c'est ce que j'ai essayé de retransmettre dans la bande annonce pour voilà, c'est le but d'une bande annonce, c'est en deux minutes faire ressentir ce qu'on peut ressentir en une heure et demie, quoi.
Où tu voudras, quand tu voudras, un témoignage, un document qui sera ô combien précieux pour les générations futures et puis aussi pour notre société actuelle. Ça nous permet d'ouvrir les yeux, d'avoir un œil, un regard là où on ne peut pas entrer habituellement. T'es resté un mois. Un mois, c'est long ou c'est court? Est-ce que t'avais suffisamment de matière ou au contraire, tu te dis que peut-être il aurait fallu revenir un peu plus tard ou peut-être que tu te disais en une semaine, on peut déjà avoir un bon aperçu?
À la fin du mois, j'étais assez content puisque en fait on est reparti avec Ellie, sans aucun regret. Je me suis pas dit je serais bien resté une semaine de plus parce que j'ai pas eu ça. Les 3-4 derniers jours en fait on avait déjà tout parce qu'au final au bout d'un mois il y a des choses qui se répètent et je pense que c'était la bonne durée. Alors évidemment je pense que le mieux ça aurait été de les suivre pendant un an pour traverser les 4 saisons. Mais bon, enfin, pour plusieurs raisons, c'était pas possible. Et un mois, ouais, non, j'ai eu aucun regret. C'était ce qu'il fallait. Et on en a vu des nouvelles choses tous les jours. Mais voilà, à la fin du mois, on est reparti satisfait et comblé, je vais dire.
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ce mois? Est-ce qu'il y a un moment, un souvenir, justement, au moment où tu as rangé la caméra, tous les accessoires et que tu as pris le train pour revenir chez toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est resté en tête plus qu'autre chose? Ou une rencontre?
Ouais, on est ressorti avec, je dirais, presque de la nostalgie. Parce qu'en fait, on s'attendait pas à s'attacher autant aux résidents, surtout. Ça a été des rencontres particulières, parce que côtoyer 24 personnes atteintes de handicap lourd, c'est des relations qu'on n'a pas tous les jours. Et en fait, je pense que c'est des relations qui se construisent plus vite, peut-être. Enfin, des sentiments plus forts et plus vite qu'une conversation normale. Parfois il y a pas de parole, parfois il y en a très peu, et quand on est reparti, en fait on était juste super content d'avoir rencontré tous ces gens. Et on a fait un goûter le dernier jour où on a posé la caméra, on a posé le micro, il y avait plus de film, c'était juste un rapport humain, et dans un documentaire c'est quand même primordial. Et ce dernier goûter, c'était une façon de les remercier de nous avoir accueillis chez eux, parce que c'est leur maison. Et voilà, il y avait plus de frontières, on pouvait se parler, on pouvait communiquer de la manière des plus naturelles, et tout le monde était heureux, ils étaient heureux de nous avoir accueillis, on était heureux de les avoir rencontrés. C'est ce qui m'est resté.
13h ce samedi 28 septembre au 400 coups, où tu voudras, quand tu voudras, avec Youn Bazin, réalisé par toi-même. Tu vas nous parler aussi de qu'est-ce que tu espères ou qu'est-ce que tu imagines que les spectateurs, spectatrices vivront en termes de sentiments? Qu'est-ce que ça pourra provoquer chez eux? Tu nous parleras aussi du titre. D'ailleurs, on s'est pas intéressé encore au titre. Et puis, tout à l'heure, avec Cécile qui est arrivée entre-temps avec nous en studio, on parlera de ce qui se passera le matin au 400 coups. Vous allez pouvoir rester toute la journée au 400 coups et puis peut-être même pique-niquer là-bas. Mais avant tout ça, on écoute sur le 101.5 FM Great Fortune de Oda qui était avec nous la semaine dernière.
First dream I saw was those I am diamonds.
Great Fortune de Oda sur le 101.5 FM. T'as vu Paul, j'ai travaillé mon accent cette année. Hein. Il est plus relevé mon accent anglais, non?
Ouais, t'as eu des cours, non?
Oui, j'ai travaillé ça durement. Allez, la Minute Sport, ce sera tout à l'heure dans quelques instants. On va faire le point sur les actualités sportives en juin. Mais avant tout ça, on est toujours avec toi, Youn, pour évoquer où tu voudras, quand tu voudras, le documentaire que tu as réalisé dans cette maison d'accueil spécialisée où travaille ta sœur. Justement, le titre, on n'en a pas parlé. Pourquoi ce titre-là? Qu'est-ce que ça signifie?
C'est plusieurs choses. C'est d'abord une petite référence au morceau de Joe Dassin, L'été indien.
On ira où tu voudras quand tu voudras.
Voilà, parce qu'en fait, c'est un morceau qu'ils écoutent, qu'à la masse, ils écoutent très souvent. Enfin, à la masse, il y a tout le temps de la musique. Hein. C'est très joyeux. Les résidents adorent écouter de la musique, ils chantent, ils connaissent tout par cœur. Et voilà, donc cette mélodie où tu voudras quand tu voudras, elle résonnait très souvent pendant le mois où j'y étais. Et c'était aussi, je trouvais, une forme de liberté dans le titre, c'est-à-dire que c'est des personnes qui parfois peuvent pas marcher, peuvent pas parler, mais il y a toujours une forme de liberté dans ce qu'ils vont faire, enfin en tout cas de la part des accompagnants, notamment de Mona. C'est toujours elle posera toujours la question. Est-ce que tu veux manger ça? Est-ce que tu veux faire ta douche maintenant? Est-ce que et voilà, je trouvais que cette forme de liberté, elle existait quand même malgré leur handicap et parfois leur impossibilité de s'exprimer par le regard. Parfois, ça passe et voilà, j'avais envie de dire que même même s'ils sont handicapés très lourdement, bah, ils ont toujours une liberté qui leur appartient, quoi.
La graphie même du titre me semble évocatrice. Je vais me risquer une analyse un petit peu. On dirait que c'est un enfant qui l'a écrite, où tu voudras, quand tu voudras, sur l'affiche. Est-ce qu'il y a aussi de dire que il faut peut-être redevenir un enfant pour. Est-ce que c'est peut-être ce genre de choses que ça appelle d'être avec des personnes qui sont lourdement handicapées, d'enlever un petit peu ce masque qu'on peut avoir, cette distance d'adulte, pour revenir à des choses simples, en fait, Youn?
C'est une belle analyse qui t'appartient, et je trouve que c'est bien dit, parce que c'est vrai que sur certaines personnes il y a une spontanéité hyper précieuse. Mais pour la petite anecdote, le titre du film a été écrit par une résidente, donc par Francine, c'était ma volonté de voilà, qui participe au film. Déjà, c'est quand même dans un documentaire, on dit pas acteur, mais c'est les acteurs du film. Et j'ai voulu que ça vienne d'eux. Donc, ils sont 24 à la masse, mais il y en a très peu qui peuvent écrire. Et Francine, c'est une personne qu'on suit beaucoup dans le documentaire. Et je trouvais que c'était très symbolique que ça soit elle qui écrive le titre du film. Donc, sur l'affiche, c'est son écriture qu'on voit.
Est-ce que Mona, ta sœur, a vu le documentaire ou pas?
Oui, elle l'a vu. Elle a souhaité le voir avec les résidents. Donc, il a été projeté à la masse la toute première fois. Elle voulait pas le voir toute seule. Elle voulait le vivre avec tout le monde. Mais depuis, elle a pas voulu le regarder.
Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti tous?
J'ai été hyper surpris parce que, en fait, il y a eu des réactions très fortes dans la salle avec les résidents. Il y a des résidents qui ont pleuré en se voyant à l'écran. Il y en a d'autres qui allaient toucher l'écran quand ils se voyaient. C'était assez silencieux, alors que ça ne l'est pas toujours à la masse. Je pense que ça a dû faire résonner beaucoup de choses chez eux, et j'en suis plutôt fier parce que je les remercierai jamais assez de m'avoir accueilli comme ils l'ont fait. Donc c'était un peu une pression qu'ils le voient, et apparemment ça a été plutôt bien reçu.
Et Mona, donc c'est ta grande sœur, hein, elle est fière du travail que tu as réalisé, Youn? Elle t'a dit bravo à la fin?
J'espère. Je pense que ça se libérera un peu plus après la projection 400 coups samedi, puisque, comme j'ai dit, elle a pas voulu le re-regarder après, elle a sûrement pas réussi, parce que c'est quand même, elle s'expose à nu, quoi, devant tout le monde, on la suit dans son quotidien, dans des moments où d'habitude elle est seule avec des résidents, par exemple au moment du coucher, au moment de la toilette, donc c'est quand même quelque chose de très pudique, je pense, et ça doit pas être facile, je me mets à sa place, elle sera là pour en parler samedi, mais je pense que c'est encore un peu noué peut-être, et que ça se libérera après la projection.
Ouais, il y aura peut-être un petit moment d'émotion à la fin de la projection. Donc, ça dure combien de temps d'ailleurs?
1h24.
1h24, donc ça fera 14h24 si mes calculs sont bons pour la fin de projection. D'ailleurs, toi aussi, c'est la première fois au 400 coups, pas, que tu es projeté.
Non, deuxième.
Deuxième.
J'avais projeté mon premier court-métrage Cadence en 2021. Voilà.
Alors ça fait quoi de voir son œuvre, son travail projeté? C'est aussi une reconnaissance, hein. C'est pas de la rémunération, mais c'est une sorte de rémunération affective. Ça fait du bien.
Ah oui, c'est la plus belle récompense. Et en fait, c'est ce qui met fin au projet. C'est vraiment ce qu'on attend, en fait. On fait le film. Moi, je me souviens, pour Cadence, je passais toutes mes soirées dans mon lit à espérer ce moment, parce que c'est des longs projets qui sont lourds, qui demandent beaucoup d'énergie, et la concrétisation, c'est ça, c'est de le montrer autant à ses proches qu'à des inconnus, et de montrer son travail et de pouvoir échanger et que ce film devienne réalité, devienne palpable. C'est vraiment ce qu'on attend le plus, quoi. Donc là, ça fait un an et demi que je suis sur le projet, donc il est temps.
Et comment ça se passe, du coup? J'imagine que le but, c'est de remplir la salle. Est-ce qu'il reste des places ou pas? Comment ça marche d'un point de vue pratique, Youn, pour y aller samedi?
Il reste des places, oui. C'est à 13h, comme tu l'as dit. On peut prendre son billet sur le site des 400 coups, directement dans la page événement ou séance spéciale. Et voilà, et je pense qu'il restera encore quelques places parce que la salle est grande, donc on peut venir sur le moment même et acheter sa place sur place.
Oui, c'est payant, hein, au niveau de tarif, on est à...
C'est 5 euros,
c'est tarif unique. Voilà, c'est quand même très accessible, ça permet aussi de remercier ce beau travail que tu vas présenter donc samedi 28 septembre prochain. Youn Bazin qui est avec nous ce soir dans Topette, tu restes avec nous, tout à l'heure on s'intéressera peut-être à tes projets futurs, s'il y en a sous la main là, actuellement. Entre temps, on va faire dans l'ordre inverse, on va revenir au matin du samedi puisqu'on va parler des 400 coups toujours, mais avec Cour et 49, Cécile sera avec nous. Oh là là, pardon Bruno pour cette liaison dangereuse. Des liaisons dangereuses, j'espère qu'il va pas en faire pour nous parler de l'actualité sportive angevine. C'est l'heure de la Minute Sport avec toi, Paul.
La Minute Sport de Topette.
Bonsoir Paul.
Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous. Angesco face à son derby, la féerie des jeux pour les athlètes angevins, ou encore Ronaldinho à Angers, c'est parti pour votre nouvelle dose d'actualité sportive autour d'Angers. Bienvenue dans la Minute Sport. Ça fait un bail quand même depuis la dernière Minute Sport, non ? J'ai pas de chute, si ce n'est qu'il y en a des choses à dire depuis. Certes, durant l'été, il nous a manqué nos belles équipes angevines, mais avec les Jeux de Paris, on peut pas dire qu'on est resté sur notre faim côté sport. Ils étaient 16 représentants du Maine-et-Loire aux Jeux, et parmi eux, Matteo Boeas a remporté le bronze en paratennis de table. Leïla Lacan revient avec l'argent en basketball, tout comme Nicolas Touzin par équipe au concours complet. Je vois vos yeux remplis d'émotion pensant à cette parenthèse enchantée des Jeux, donc je vais m'arrêter là histoire de ne pas trop remuer le couteau.
Et puis c'est déjà parti Paul pour les équipes angevines, hein ?
Oui, notamment le SCO d'Angers en football qui remet les pieds en Ligue 1 après avoir passé une saison en deuxième division. Les Angevins ont lancé les hostilités avec deux défaites contre Lille et Nice, puis un match nul face à Strasbourg. Et hier, c'était le derby à domicile contre Nantes. Un match à guichet fermé qui s'est soldé par un nouveau nul, un partout. Abdelli buteur sur pénalty en première mi-temps. Mais à la Baumette, le centre d'entraînement des Noirs et Blancs, il y a une poignée de joueurs qui sont laissés à l'écart ces dernières semaines. Louis Diony et Adrien Hunou, par exemple, mis au placard pour les pousser à partir. Ils ont saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel. En basket féminin, désormais, l'Union Angers lançait sa saison avec un tour préliminaire pour l'Euroleague et ont surclassé Budapest dans leur match aller 57 à 90. Les Angevines joueront le retour mercredi et lanceront leur saison régulière samedi face à Tarbes avec un effectif remanié aux trois quarts durant l'intersaison.
Et quand on parle de sport, comment ne pas parler des Ducs d'Angers ? La saison aussi est déjà lancée de ce côté-là.
Oui, et de la meilleure des manières, hein, paré de leurs 10 nouvelles recrues, les hommes du nouvel entraîneur Jonathan Paredes sont venus à bout des boxeurs de Bordeaux et des jokers de Cergy. Alors c'est vrai, quand on pense aux Ducs d'Angers, on a l'habitude de citer Grenoble ou Rouen comme adversaires favoris, mais les jokers et les boxeurs font figure de sérieux outsiders cette saison. Bordeaux était à deux doigts de faire tomber Rouen en finale des playoffs l'année dernière. Cergy est à chaque saison au rendez-vous des phases finales. Et puis les effectifs se renforcent de manière générale depuis quelques saisons de chaque côté. Bref, l'étau se resserre et la courte victoire 4-3 vendredi contre les jokers le montre bien. Dans le reste de l'actualité, en roller hockey, Angesco a perdu 4-1 à Valenciennes hier. Une semaine plus tôt pour son premier match, les Noirs et Blancs sont restés sur un nul, un partout, face à Calais. Et puis vous avez dit Ronaldinho à Angers ? Eh bien oui, la star brésilienne, légende du football, sera au stade Raymond Kopa le vendredi 15 novembre pour un match de gala au profit d'une association. Il devrait être aux côtés d'autres grands noms français et brésiliens, mais les identités des autres joueurs n'ont pas encore été dévoilés. Voilà pour ce petit tour de l'actualité sportive autour d'Angers et à très vite pour une nouvelle Minute Sport.
Ronaldinho à Angers, bah ça c'est, voilà, si je m'y attendais ça, Raymond Kopa au stade Raymond Kopa. On reste en sport avec Cour et 49.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Paul, ça fait deux fois que je fais un jeu de mots.
Ah, c'est
Cour et 49 parce qu'on court en sport. Avec toi, Cécile Botson, ça va ? Cécile, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Sous la casquette de Cour et 49 ce soir, pour ce qui nous intéresse, puisqu'on est toujours au 400 coups avec vous, le samedi 28 également, mais le matin.
Voilà, tout à fait.
Projection de trois courts-métrages. Là, ce sera un petit peu plus court. Tout est dans le nom de l'association, j'ai envie de dire. On a Billet d'humeur par toi-même, oui. 6 minutes. Fleurs sauvages de Claude Daniel Gros, 30 minutes, un petit peu plus long. Et Victor de Patrick Azam, 24 minutes. Voilà pour un petit peu le programme. Donc si on fait le calcul, c'est quoi? Ça dure 1h30?
Oui, 1h30, c'est ça. Il y a la projection et quelques débats, présentation des réalisateurs, des équipes. Et puis voilà, un échange avec les spectateurs.
Et puis on va commencer les présentations justement, oui, avec toi, surtout le court-métrage que tu présentes, mais aussi les deux autres. Mais avant tout ça, l'événement, c'est quoi? C'est la rentrée un petit peu de Courrier 49?
Oui, on peut dire ça, c'est la rentrée de Courrier 49, voilà, avec une coprojection. Coprojection, avec deux propositions qui ont été réalisées, mises en œuvre par Courrier 49 et en association avec Les Films du Faubourg, hein, qui est une production parisienne, hein, une entreprise de production parisienne. Voilà, donc on s'est associé pour cette première projection de la rentrée.
Immanquable de passer aux 400 coups pour voilà, oui, un bel écrin pour cette initiative.
Oui, tout à fait. Donc comme tu le disais, trois courts-métrages qui ont un peu des statuts différents. Le mien, c'est un court-métrage d'atelier que je vais présenter. Donc à Courrier 49, en fait, donc association de cinéma angevine, hein, association angevine.
On connaît bien dans tout.
Voilà, donc qui propose qui a fait sa rentrée et qui propose des ateliers. J'en profite pour redire un petit peu, hein, on se retrouve une fois par mois le jeudi soir. Il y a des masterclass, il y a des ateliers, des intervenants, et on réalise aussi dans les ateliers, il y a un atelier qui s'appelle Épris de cours où on réalise son court-métrage du début à la fin, et c'est ce à quoi j'ai voulu être confrontée en réalisant Billets d'humeur. Voilà,
qui dure 6 minutes. Je lis le synopsis peut-être, parce que je me sens légèrement concerné vu qu'on, oui, parle de Matt, un animateur radio qui reçoit un message au travail. En marchant dans la ville pour chercher son enfant à l'école, il est traversé par différentes émotions, et bien qu'il faille faire bonne figure, son enfant va poser une question à laquelle il va falloir répondre. Quelle question, j'aurais envie de te dire, mais j'imagine qu'on n'aura pas la réponse à quelle est cette question.
Tout à fait.
Bon, il faut venir voir. Tu peux peut-être nous expliquer en substance de quoi ça parle. Ça s'appelle Billet d'humeur. Donc, oui, est-ce qu'on est sur une humeur joyeuse?
On est plutôt sur un drame. Comment dire?
Oui, comment dire sans trop en dire, c'est ça.
C'est ça, parce que c'est assez court. Donc voilà, le personnage principal donc est animateur radio, et ce personnage, tu as tout dit par rapport au pitch. Je vais pas trop répéter, mais voilà, il se passe quelque chose et on ressent. Voilà, j'ai voulu travailler sur les émotions. C'est difficile de raconter sans trop en dire. Donc je vais.
Donc on va pas trop en dire.
Ouais, voilà.
Mais j'ai quand même envie de te poser la question en 6 minutes, oui, qui est très court quand même. Oui. C'est quoi? C'est une facilité ou au contraire c'est une difficulté d'en faire en si peu de temps?
Alors oui, c'est une question intéressante parce que justement dans le cadre de l'atelier déjà, on doit réaliser son court métrage en 2 jours. Alors d'habitude on est plutôt en groupe à 2 ou à 3. J'étais toute seule. Cette année-là on était peu, donc il y a eu 2 groupes, 1 de 2, et moi j'étais toute seule dans l'autre groupe. Donc j'ai voulu parce qu'il y a déjà, je sais qu'il y a pas mal de contraintes quand on réalise. Donc j'ai voulu mettre en place des choses en me facilitant la tâche d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a fait aussi réfléchir à comment démarrer l'histoire, hein. Voilà, j'ai fait de la radio, j'ai pensé que mon personnage principal pouvait être un animateur radio et travailler à la radio. Et voilà, il y a aussi un moment à l'école, dans une école, quand Matt va chercher son fils. J'habite à côté d'une école. J'avais la possibilité
T'as pioché des éléments créatifs, voilà, autour de chez toi, en fait.
Exactement. Et c'est un peu. Je me suis un peu. J'ai un peu réfléchi avec mon quotidien et ce que je connaissais pour construire l'histoire, en fait. construire mon histoire et, là, et effectivement pas faire quelque chose de trop long pour bien maîtriser chaque moment du tournage.
Justement, je me tourne vers un autre réalisateur avec nous ce soir, Youn, réaliser un court-métrage en plus en 6 minutes, pour toi c'est quoi, c'est un défi ou c'est facile aussi le fait qu'il y ait peu de temps?
Je pense que c'est avant tout une difficulté, parce que pour raconter quelque chose en 6 minutes, j'imagine qu'il faut être hyper efficace, enfin...
Faut habiter à côté d'une école,
ouais.
Et avoir fait un peu de radio aussi.
Le temps de s'attacher au personnage, de comprendre l'enjeu, enfin, c'est de toute façon pour moi c'est ce qui est le plus dur. Je sais pas combien de rush vous avez ramené du tournage, mais pour redescendre à 6 minutes, là il peut que rester l'essentiel. Donc je pense que c'est avant tout une grande difficulté.
Ouais, donc ça va être une grande découverte, voilà, quand ça va être diffusé, de comment le public accueille cette proposition billet d'humeur que tu fais, donc Cécile, ce samedi 28 décembre.
Septembre.
C'est à quelle heure on disait?
Ça commence à 10h30.
Si on parle rapidement des deux autres
oui,
aussi qui sont très succinctement, Fleurs sauvages. Et alors, Victor, tu as pu les voir, toi?
Oui, alors, ouais. Oui, je ne vais pas en dire trop, voilà, mais alors déjà, ce que je peux dire sur les trois courts-métrages qui sont proposés, ça a été aussi un choix, puisqu'il y a quand même, entre ces trois films, l'idée d'un fil conducteur qui est sur la filiation. Il y a voilà, une relation entre un adulte et un enfant dans les trois. Voilà. Alors, dans Victor, c'est plutôt avec ses parents, mais voilà. Fleurs sauvages, c'est un film qui était proposé aussi par Cour 49 Productions. C'est un film de cœur. Ce qu'on appelle les films de cœur, c'est un peu le gros projet, un des gros projets de Cour 49, voilà. Et donc Cour 49, l'association est composée de professionnels et voilà, d'amateurs avertis.
Et amateurs, comme tu dis, amateurs
oui.
Avertis n'enlèvent rien à la qualité de ce qui peut être proposé, hein, précisons-le quand même.
Exactement. Et voilà, il y a aussi des jeunes qui sortent des écoles, hein, d'audiovisuel ou de cinéma. Voilà, donc ce joli mélange est très intéressant et très riche. Et en fait, là, voilà, par exemple, comme Fleurs sauvages, voilà, tous ceux qui ont s'investissent pour leurs compétences dans un court-métrage de cœur sur le tournage, comme comédien, voilà. Donc voilà, c'est un des gros projets de Cour 49. Et Victor, c'est un projet professionnel qui a été tourné dans la région. Et pourquoi aussi la relation avec Cour 49, c'est que certains à la technique qui ont travaillé sur Victor sont à Cour 49.
Voilà, tout s'explique. Bon, la pression va monter tranquillement jusqu'à samedi matin et puis ça va redescendre après, j'imagine. Donc est-ce que d'ailleurs l'après-midi vous pourrez l'équipe de Cour 49 rester dans la même salle et puis attendre simplement que Youn se mette en place avec ses équipes pour peut-être assister à la projection. D'ailleurs, Youn, je te laisse le micro de nouveau pour nous redonner les informations pratiques concernant où tu voudras, quand tu voudras. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il faut quand même être samedi 28 septembre à 13h au 400 coups pour pouvoir voir ton documentaire.
Exactement, donc voilà, c'est samedi à 13h au 400 coups. On peut prendre son billet sur le site des 400 coups directement, dans la page événement, séance spéciale, ou venir sur place. Voilà, c'est
5 euros,
tarif unique.
Voilà. C'est très accessible, donc là ça dure 1h23 précisément. D'un mot quand même, tes futurs projets peut-être, après ça?
Le futur projet, c'est d'abord de digérer celui-là. Et une fois que l'énergie sera revenue, ce que je ne doute pas, ça va revenir très vite, ce sera, je pense, plutôt de retour à la fiction. Voilà.
Retour à la fiction, peut-être écrite par toi-même ou adaptée de...
Ouais, écrite par moi-même. J'ai un scénario qui attend patiemment.
Vous le voyez pas, mais dans ses yeux, on sent qu'il a déjà quelque chose, ouais, comme tu viens de le dire, qui commence à se construire. En tout cas, on vous dit, je te dis merde pour toi. Et puis il y aura Ellie aussi. Et puis j'ai perdu son prénom.
Ellie sera malheureusement pas là car il joue en concert à Paris le soir. Donc bon, il peut pas être partout, mais tant mieux pour lui. Et Aurélie est à Dublin, la compositrice. Voilà. Mais bon, il y aura Mona.
Il y aura Mona. Et puis
juste
et puis toi.
Pour la projection du matin, on peut prendre des billets sur Eloasso. Voilà, c'est tarif libre. Voilà, c'est.
Et donc là, c'est pour l'autre événement dont on a parlé ce
matin.
Soir. On
parle avec de... Courrier 49 et les films du Faubourg. Donc, soit sur, enfin, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, on peut, aller sur le, sur ces, pardon,
sur les plateformes. Les,
voilà,
c'est le mot que tu cherches, je pense. Voilà. Et c'est à partir de 10h30 au 400 coups pour du coup les trois projections, les trois courts métrages projetés de Courrier 49 avec Faubourg, comme tu viens de le dire. Ça c'est pour l'actu forte, l'actu chaude. Sinon Courrier 49, nouvelle saison qui démarre. Peut-être des actualités d'un mot.
Nouveaux ateliers, voilà. Non, équipe.
Courant folie peut-être qui va.
Ah, courant folie qui va démarrer, tout à fait. À peu près sous la même formule, voilà. Et puis des ateliers, des masterclass, voilà. C'est,
bon ben on garde. On vous souhaite merde pour la saison qui démarre et puis aussi pour l'événement samedi matin. Cécile, on sent qu'elle a la pression de vouloir dire les choses, mais elle peut pas trop en dire non plus, j'ai l'impression, parce que du coup, faut pas dévoiler tout ce qui se passe.
Ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai souhaité faire cet atelier et réaliser Billets du Peur parce que j'ai un projet de court-métrage plus important que je souhaite réaliser de manière professionnelle, voilà, qui est en pré-production. Avec Courrier 49 et qui on cherche une coproduction.
C'est un appel que tu lances.
Tout à fait.
Voilà. Bon renseignez-vous. De toute façon, découvrez. Vous pouvez rencontrer Cécile samedi prochain, samedi matin à partir de 10h30 et puis Youn l'après-midi à partir de 13h. On vous souhaite vraiment bon courage respectivement et puis nous on essaiera peut-être d'y passer si on y trouve le temps. Paul, on se dit à dans deux semaines.
C'est ça, ouais, à dans deux semaines pour une nouvelle minute sport.
Voilà, un petit peu de sport toi en attendant.
Oui,
forcément, t'animes la Minute Sport. Merci beaucoup, à dans deux semaines. Et puis nous, on se retrouve demain en théâtre et en danse avec le CDN et le CNDC. Mais avant tout ça, on va se quitter avec Florent Pervier, photographe, qui était à millième de seconde, le festival de la photographie sportive à Saint-Mathurin-sur-Loire cet été. Prenez soin de vous, à demain, et topette.
J'en ai une en tête avec un sauteur en hauteur, amputé. C'est comme s'il était démembré, quoi. Donc une jambe qui s'enroule autour de la barre et de l'autre côté, rien du tout.
Florent Pervier est un photographe singulier et expérimenté qui passe de l'animalier aux photos d'école. Il est aussi photographe auprès de la Fédération des Sports Paralympiques, dont ses photos sont exposées ici à millième de seconde. Millième de seconde, c'est le festival de la photographie sportive chaque année à Saint-Mathurin-sur-Loire.
À la base, je suis issu du milieu de l'athlétisme, athlète, entraîneur et autres. Donc, c'est un milieu que je connais bien. C'est pour ça que je sais où me placer, comment faire. Et puis, j'ai toujours un lien un peu plus particulier avec les athlètes. Je peux leur parler technique, je peux leur parler placement. Ils me comprennent et l'échange se fait tout de suite un petit peu plus... Ils se disent pas, bah, tiens, qu'est-ce que c'est que celui-là qui arrive, qui connaît rien. Voilà.
Tu fais pas que du sport par ailleurs. Et en plus, quand tu fais du sport, tu dois faire différents sports paralympiques. C'est une approche différente. On montre d'autres choses. Comment on aborde ces différents sports paralympiques pour les prendre en photo?
Alors le plus dur c'est d'essayer quand même, j'essaie toujours de montrer dans la mesure du possible parce qu'il y a des handicaps invisibles, mais j'essaie toujours de mettre une petite touche quand même du handicap, hein, que ce soit un coureur amputé qui a une lame, un amputé du bras ou une agénésie qui a eu une prothèse, une adaptation, donc j'aime bien quand même qu'il y ait un petit détail qui fait voir que bien que les athlètes et un déficit, un handicap, et ben ils sont tout à fait à la hauteur de faire du sport de haut niveau, et bien souvent au-delà de la grande majorité des gens valides.
Ce qui peut être intéressant avec ton travail et les photos que tu proposes, c'est que ça participe peut-être du coup, au travers de tes clichés, à changer le regard de la société sur ces handicaps.
Et j'espère bien que ça permet de changer, parce que souvent les gens ils ont tendance à penser que handicap... c'est une maladie, c'est contagieux. Non, vous pouvez aller à la rencontre des sportifs handicapés. Ils sont comme vous et moi, hein. Il leur manque un bras, une jambe. Ils sont pas plus bêtes. Ils ont toute leur tête. Voilà, on peut échanger, on peut faire plein de choses. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que Il n'y a pas à avoir peur d'un athlète handicapé. Voilà, je sens souvent dans les discussions avec des gens qui ne connaissent pas. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont courageux. Oh là là, disons, c'est bien, ils sont forts. Oui, ils sont courageux. Ils ont envie d'être meilleurs que l'autre. Ils s'entraînent, ils bossent pour ça. Ce sont avant tout des sportifs et des sportifs de haut niveau.
Est-ce qu'il y a une identité artistique qu'on retrouve dans tes clichés, au travers de tes clichés, Florent?
Alors moi, j'aime bien, comparativement à d'autres amis photographes, moi j'aime bien un peu plus le geste, un petit peu certains gestes qui sont plus techniques ou la pureté. Il y a peut-être moins forcément le côté artistique que d'autres, mais moi j'aime bien le geste en lui-même, le bon placement, le bon regard lors de tel ou tel geste.
La pureté brute.
Ouais, parce que les gens, ça parle, ils n'ont pas forcément, et ça leur permet de comprendre facilement et rapidement une image, un sport, une émotion, un effort, quoi.
Ce qui signifie qu'il faut être aux aguets sur le fait qui va se produire, le moment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on essaie de, on essaie de choper la ligne d'arrivée, la préparation, et on essaie d'anticiper aussi peut-être l'imprévu qui va avoir cours sur la performance.
Eh bien, en fait, c'est un petit peu un mélange de tout ça, parce que sur certaines grandes compétitions, notamment sur les Jeux paralympiques, les photographes ne peuvent pas aller où ils veulent, comme ils veulent. C'est réservé vraiment à une petite quantité de photographes qui peuvent vraiment bouger où ils veulent, quand ils veulent. Et sinon, le plus dur, ça va être de connaître un petit peu quand même le sport, de manière à pouvoir anticiper. On sait qui va rentrer à tel endroit, on sait que le départ va se passer de telle manière, on sait que en cas de rappel, il va faire ceci ou cela. Donc oui, il y a des petites choses quand même à connaître. Le circuit, par où va-t-il arriver, par où va-t-il sortir. Voilà, c'est des petites choses à connaître sur chaque sport. Quelqu'un qui va faire de la longueur, qui va faire du poids, il va pas agir de la même manière. Donc c'est des petites choses à connaître au fur et à mesure.
Ce qui contraste avec d'autres types de photographies, où là, par exemple, en milieu scolaire, en entreprise ou que sais-je, où là, il y a de la mise en scène. Est-ce que l'approche est différente là aussi, d'un point de vue purement technique, ou l'une est plus stimulante que l'autre?
Mais en fait, que ce soit l'animalier ou le sport en compétition, on essaie vraiment de saisir l'instant. On va pas avoir grand chose à maîtriser sur la photo qu'on va faire. Enfin, on va maîtriser le côté technique, mais l'émotion, on va pas la maîtriser. L'émotion, on va pas lui demander de la refaire. Donc, il faut vraiment saisir l'instant présent. Faire des photos d'enfants en école, faire des photos en entreprise, ça ne va pas comme ci, comme ça. On va bouger l'éclairage, on va leur demander de faire un sourire ou autre. Sur le sport, comme sur l'animalier, on a pas de chance, quoi.
4 photographes sur 5, c'est des statistiques purement établies par moi-même, ont commencé la photo parce qu'au tournant de leurs 10-12 ans, ils ont eu un boîtier de leurs parents ou d'une autre personne de la famille. C'est un peu cliché, mais c'est souvent le cas. Est-ce que toi, c'est comme ça que la photo est arrivée? Je tente ma chance.
Eh ben non, je fais partie des 20% restants. Non, moi j'ai pas commencé si jeune que ça. J'ai commencé, j'avais dû avoir une vingtaine d'années. Et puis personne m'a offert de boîtier, c'est moi qui me suis débrouillé et c'est moi qui, lors des premières compétitions, me déplaçais avec les copains, les copines en club et faisais les photos de club. Et puis un peu plus et puis jusqu'au jour où je deviens indépendant.
Le cœur de ton métier, c'est de mettre en avant des sujets. Là, c'est toi qui es mis en avant, en lumière, au travers de cette exposition photo dans le cadre de millièmes de seconde. Qu'est-ce que ça fait?
Ben c'est toujours un grand plaisir, parce que c'est vrai que des festivals avec ce genre de présentation, hein, il va y avoir des dizaines de festivals de photos animalières, de peintures, voilà. Dans le domaine du sport, il y en a pas tant que ça quand même. Donc c'est quand même une sacrée belle vitrine. Le lieu s'y prête très bien, hein. Mais c'est vrai que ça permet de venir découvrir la région, de venir découvrir tout un tas de sports, d'images, voilà, pour se plonger, pour rêver, pour se rendre compte un petit peu de la valeur et de la performance des athlètes.
Quel mot tu dirais à ces personnes-là qui portent l'ambition de faire de leur boîtier leur métier?
Ben, il faut quand même être relativement patient, un peu persévérant, parce que voilà, les contrats n'arrivent pas tout seuls. Le plus dur, c'est déjà de montrer, d'être capable de montrer un petit peu ce qu'on fait. Et puis après, c'est la démarche et c'est du réseautage. Un salarié peut bouger facilement d'une entreprise à une autre. Un indépendant, bien souvent, dans certains milieux, le turnover, il est pas très important. Quand on a le pied quelque part, voilà. on s'applique, on bosse bien, on essaie d'avoir d'être en bonne relation. Les places qu'on a, et les gens avec qui on travaille, on veut les garder. Des one shot, c'est pas forcément toujours intéressant. Quand c'est quelque chose de pérenne, là, c'est, on peut se projeter, on peut être rassuré, et c'est quand même beaucoup plus important.
Merci, Florent.
Merci.
Le festival Millième de Seconde à Saint-Mathurin-sur-Loire a lieu tous les ans et met en lumière le métier de reporter photographe autour d'un thème commun, le sport. Plus d'informations sur
Millième de Seconde. 101.5 FM.